Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition, les 18h30, temps universel du mardi 29 octobre 2019. John Lyndon pour vous présenter cette édition. Tout d'abord, les titres. La Guinée-Bissau frappée par une crise politique au sommet avec une confrontation entre la présidence et le gouvernement.
À un mois des élections présidentielles, le président a décidé de dissoudre le gouvernement, ce qui est déjà anormal. Son mandat est fini depuis le 23 juin. Une crise s'est posée et la CEDEAO a tranché.
Au Cameroun, au moins 37 morts et plus d'une trentaine de disparus sur le bilan d'un glissement de terrain à Bafoussam dans l'ouest du pays. Au Burundi, une vingtaine de personnes, membres du principal parti d'opposition, ont été arrêtées. Elles sont accusées de tentatives d'assassinat. Liban, démission ce mardi du premier ministre Saad Hariri, au 13e jour d'une révolte populaire inédite dans le pays. En Irak, de grandes manifestations dans tout le pays réclament la chute du gouvernement. Et puis, ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Côte d'Ivoire, l'État a déposé une demande auprès de la CPI, la Cour pénale internationale, pour s'opposer à la libération sans condition de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté en première instance mais en liberté surveillée en Belgique en raison d'un appel de la procureure. La République de Côte d'Ivoire sollicite l'autorisation de la Chambre d'appel de pouvoir présenter des observations écrites sur la requête de Laurent Gbagbo visant à la remise en liberté sans condition de celui-ci, écrivent les avocats Jean-Pierre Mignard et Jean-Paul Benoît, qui demandent à la Cour de rejeter la requête déposée. Dans leur courrier de 7 pages, déposé le 25 octobre, les deux avocats promettent, au cas où la Cour l'accepte, de transmettre un document plus complet qui viendrait étayer cette demande de rejet de la libération sans condition de Laurent Gbagbo. Une actualité sur laquelle nous reviendrons bien sûr sur VOA dans nos prochaines éditions. Arrestation au Burundi d'une vingtaine d'opposants et membres du Conseil national pour la liberté, un des principaux partis d'opposition, sont accusés de tentative d'assassinat. Le point avec Abdourahman Dia.
Les arrestations sont survenues vendredi, mais ont été annoncées aujourd'hui par ce parti d'opposition. Avant leur arrestation, un administrateur local dans les collines surplombant l'est de Bujumbura avait été blessé par balle dans le dos par un agresseur non identifié qui était parvenu à prendre la fuite. Selon des témoins, toutes ces arrestations ont été réalisées par des agents du Service national de renseignement. La gouverneure de la province de Bujumbura rurale, Nadine Gagouti, s'est voulue rassurante. C'est un simple travail de recherche de suspects et non une purge. Nous demandons à la population de rester sereine, a-t-elle dit. Mais pour le responsable du CNL, c'est clair, le pouvoir en profite pour purger la région de tous les dirigeants locaux du CNL, car, dit-il, Bujumbura rural est notre fief historique à 7 mois des élections générales dans le pays. Le président Nkurunziza a indiqué qu'il ne se présenterait pas.
En Guinée-Bissau, c'est une crise politique chronique qui y prévaut. Le président José Mario Vaz a nommé aujourd'hui l'ancien premier ministre et ex-ministre des Affaires étrangères, Faustino Imbali, pour former le nouveau gouvernement. Quelques heures après avoir démis le président Aristide Gomez, le chef de l'État invoque la grave crise politique qui empêche, dit-il, le fonctionnement normal des institutions de la République. La crise est marquée par des mois de confrontation entre présidence et gouvernement à moins d'un mois de la date prévue de la présidentielle. Nous y reviendrons en partie magazine de ce journal. Au moins 37 morts et plus d'une trentaine de personnes toujours recherchées. C'est le bilan d'un glissement de terrain à Bafoussam au Cameroun, à près de 300 kilomètres de Yaoundé dans la région de l'Ouest. Le drame est survenu sur un site inapproprié à la construction au cours de la nuit d'hier à ce mardi. La région a été le théâtre de 3 jours d'intenses pluies. Retrouvons à Yaoundé notre correspondant Emmanuel Juntap pour plus de précisions.
Les fouilles dans les décombres, entamées dans la nuit de lundi par les populations et les sapeurs-pompiers, se sont poursuivies ce jour. Selon les autorités administratives locales, à mi-journée, 22 corps ont été retrouvés dans les décombres, dont 12 déposés à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam. Parmi les victimes, il y a une famille de 9 personnes, le père, la mère et les enfants, confient à VOA Afrique, une source médicale. Au moins 34 personnes manquaient encore à l'appel vers 13h, temps universel. Augustine Awafonka, gouverneur de la région de l'Ouest, rapporte que, dans la nuit de lundi à mardi, au lieu dit Nkwashi Pamungum, dans le 3e arrondissement de Bafoussam, 13 maisons ont été emportées par l'avalanche de la boue après des pluies torrentielles. Il pleut sur la ville de Bafoussam depuis 3 jours. J'ai suivi un grand bruit vers 22h. Lorsque j'ai accouru, j'ai trouvé que les plantations, le bétail, les maisons ont disparu, témoigne Albert Kenyé, un rescapé et riverain. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Pluie torrentielle également au Nigeria dans l'état de Kogi, dans le centre du pays. Des précipitations qui ont causé des dégâts lundi dans la localité de Coton Carfé et permis à plus d'une centaine de détenus de s'échapper de la prison locale. Le Nigeria est très affecté par les fortes précipitations en cette fin de saison de pluie. Plus de 40 villages ont été totalement détruits par les eaux dans l'état d'Adamawa, frontalier du Cameroun. Et en République centrafricaine, des inondations inédites en 20 ans frappent la capitale. Le dernier bilan fait état de 28 000 personnes sans abri dans tout le pays, selon le pasteur Antoine Bao Bogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine. Nous y reviendrons également en partie magazine de ce journal.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Liban, le premier ministre Saad Hariri et son gouvernement ont démissionné ce mardi au 13e jour d'une révolte populaire inédite, réclamant le départ de l'ensemble d'une classe politique qui a laissé couler le pays. L'annonce télévisée de M. Hariri a été accueillie par les vivas de la foule qu'il écoutait en direct sur plusieurs lieux de rassemblement avant que ne retentisse l'hymne national repris à plein poumon par les manifestants. Des feux d'artifice ont été aussitôt tirés dans Beyrouth, tandis que des voitures ont sillonné la ville tout klaxon, hurlant en signe de victoire. En Irak, la contestation ne faiblit pas. Le mouvement inédit, lancé il y a quelques semaines, se poursuivait ce mardi. Des dizaines de milliers de manifestants réclament à Bagdad et dans plusieurs villes du pays la chute du régime. Ils jugent le pouvoir inapte et corrompu. Des grèves qui se sont répandues à travers le sud du pays. On fait le point avec Yacouba Ouidraogo.
La ville chiite de Kerbala a connu une nuit de violence avec des tirs à balles réelles, faisant un mort selon la Commission des droits de l'homme, ce que nient les autorités. L'influent leader chiite Moqtada Sadr a rejoint les manifestants à Najaf, au sud de Bagdad. Dans les provinces du sud, de nombreuses femmes se mêlent aux dizaines de milliers de protestataires. Les étudiants et les élèves ont cessé d'assister aux cours. Les syndicats des enseignants, des dentistes et des avocats ont décrété une grève générale. Le couvre-feu nocturne imposé à Bagdad a été brisé par des milliers de manifestants qui ont klaxonné et agité des drapeaux. Le Parlement doit de nouveau se réunir, mais 4 députés sur 329 ont démissionné et la cinquantaine de députés de Moqtada Sadr ont entamé samedi dernier un sit-in en solidarité avec les protestataires. Les manifestants réclament la chute du régime qu'ils accusent de corruption, une nouvelle constitution et la fin du système créé il y a 16 ans pour remplacer Saddam Hussein. Depuis le début de la contestation le 1er octobre, les chiffres officiels font état de 240 personnes tuées et 8000 autres blessées.
Ankara a indiqué que des patrouilles russes turques permettront de vérifier si des combattants kurdes se sont retirés du nord-est de la Syrie, comme l'affirme Moscou. Les forces kurdes avaient jusqu'à 15h GMT pour se retirer de leur position frontalière de la Turquie. Nathalie Barge.
Le temps est écoulé. Nous allons établir par le biais de patrouilles conjointes si les terroristes se sont bel et bien retirés, a déclaré le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun. Ces déclarations interviennent alors que le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a affirmé que le retrait des combattants kurdes était terminé. Ces milices devaient se retirer des secteurs frontaliers bordant la zone où la Turquie avait déclenché une offensive le 9 octobre, avant de la suspendre quelques jours plus tard en raison d'un accord entre messieurs Poutine et Erdogan obtenu par les États-Unis. Après l'expiration du délai, Des patrouilles communes turques et russes doivent être déployées dans une zone de 10 km de profondeur depuis la frontière.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est dans la Minute Éco avec Nanit Talani.
Les multinationales du chocolat, dont Barry Calbo et Nestlé, ont accepté de verser une prime spéciale de $400 par tonne aux planteurs de cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Ce supplément est le résultat d'une intense pression exercée pendant des mois par les deux principaux pays producteurs de cacao sur les grands négociants mondiaux et les grands groupes chocolatiers. Pour les experts du secteur, cette prime est un pas dans la bonne direction pour améliorer la vie des planteurs, mais elle reste insuffisante pour les sortir de la pauvreté. Afin de sauver sa société nationale d'électricité Eskom, qui est en très grande difficulté, le gouvernement sud-africain a décidé de la séparer d'ici mars 2020 en trois filiales qui seront spécialisées dans la production, les réseaux de transport et la distribution. Les réseaux qui acheminent l'électricité seront les premiers à être séparés en une entité autonome qui sera toujours détenue par Eskom. Eskom, qui fournit 95% de l'électricité produite dans le pays, croule sous une dette colossale de 26 milliards d'euros malgré plusieurs plans de sauvetage de l'État. Pour terminer, Chevron veut vendre plusieurs gisements pétroliers nigérians dans le cadre d'un plan visant à remodeler son portefeuille et à accroître sa production de schiste aux États-Unis. La filiale nigériane de Chevron exploite et détient une participation de 40% dans 8 blocs situés dans le delta du Nil, dans le cadre d'une coentreprise avec la Compagnie pétrolière nationale du Nigeria.
Et Yacouba Ouidraogo nous a retrouvés, c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Alors on commence par Jeroen Castelloud qui remporte la 5e étape du Tour du Faso.
Oui, le Belge est sorti vainqueur de cet acte 5 couru entre Boussé et Waïvia, 135 km 500. Nous retrouvons Kader Traoré sur la route du Tour.
Ce sont les Belges qui ont mis le turbo. Jeroen Castelloud de la team Flanders, parti dans une échappée de trois coureurs depuis le kilomètre 60, a pu déjouer la vigilance de ses poursuivants dans les derniers kilomètres pour s'imposer en 3h 3 minutes 40 secondes. Le vainqueur du jour, Castelloud, affirme que la stratégie de son équipe, c'est de gagner les victoires d'étape.
La rue était très mauvaise, c'était chaud aussi à la fin, donc c'est notre tactique de gagner beaucoup d'étapes.
C'est par contre très dur pour les Togolais. Vélo en piteux état, coureur inexpérimenté, c'est en tout cas ce que nous a dit le coach des Éperviers, Omar Ouedraogo.
Au niveau matériel, on est vraiment les derniers du peloton. On a beaucoup de casse, on a des coureurs qui ont moins d'un an de cyclisme. Avec la lue, la moyenne qui se passe là, vraiment, c'est terrible pour nous. Essayer de ne pas être les derniers au classement par équipe, c'est juste, c'est plus ça l'objectif.
Le maillot jaune est toujours détenu par le Rwandais Moïse Mugisha. Il détient toujours 38 secondes de mieux que son poursuivant Dario Manuel Antonio de Baïsi Kassal d'Angola. Ce mercredi, la caravane va affronter la 6e étape. Ce sera entre Ouagadougou et Koudougou sur une distance de 118,3 km. Kader Traoré sur les routes du Tour du Faso pour VOA Afrique.
Le Cameroun rate son entrée au mondial des moins de 17 ans.
Alors que le Nigeria, l'Angola et le Sénégal ont gagné leur premier match, les Lyonceaux ont perdu 1-0 face au Tadjikistan. Dans l'autre match du groupe E, l'Espagne et l'Argentine se sont tenus en échec 0-0. Prochaine sortie du Cameroun ce jeudi face aux Argentins. L'Angola effectue sa deuxième sortie ce soir face au Canada, tout comme le Nigeria devant l'Équateur.
Enfin, les championnes du monde américaines ont un nouveau sélectionneur.
Vladko Andonovski a été nommé sélectionneur de l'équipe féminine des États-Unis de football en remplacement de Gilles Ellis qui a conduit les Américaines à un double titre de championne du monde 2015 et 2019. Andonovski, 43 ans, était à la tête de la formation de Megan Rapinoe, le règne FC en 2018 et 2019. Il a remporté deux titres de champion des États-Unis avec les dames chez le FC Kansas City qu'il a entraîné entre 2013 et 2017, ce qui lui avait valu le titre d'entraîneur de l'année à deux reprises. Il va effectuer sa première sortie avec la Team USA face à la Suède et contre le Costa Rica, un match amical de préparation aux qualifications olympiques pour les Jeux Tokyo 2020.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour et on commence par la Guinée-Bissau. Le président José Mário Vaz a annoncé hier lundi le limogeage avec effet immédiat du gouvernement en place, enfonçant plus encore son pays dans la crise et jetant le doute sur la tenue de la présidentielle du 24 novembre. Il y a quelques jours, le premier ministre Aristide Gomez avait dénoncé un projet de coup d'État. Et samedi dernier, les forces de l'ordre ont réprimé violemment une tentative de manifestation de l'opposition, faisant un mort et plusieurs blessés. Que se passe-t-il dans ce pays en crise depuis plusieurs années? Idriss Fall a joint Mahmoud Cissé, journaliste sénégalais, spécialiste de la Guinée-Bissau.
Disons que à un mois des élections présidentielles, le président a décidé d'air chef de dissoudre le gouvernement, ce qui est déjà anormal. Le président, son mandat est fini depuis le 23 juin. Une crise s'est posée et la CEDEAO a tranché en disant ceci, que le président est là pour le moment jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Et que le premier ministre Aristide Gomes assure les affaires courantes jusqu'à l'élection présidentielle. Et le samedi passé, il y a eu une manifestation non autorisée par les partis politiques qui sont le PRS, le Parti pour la Rénovation Sociale, le MADEM G15 et leurs alliés. Et il y a eu, d'après nos sources, mort d'homme. Et le président a décidé de dissoudre le gouvernement. Et
les élections, elles auront lieu ou bien elles n'auront pas lieu? Parce que tous les deux, le premier ministre et le président, sont candidats.
Pour vous rectifier, donc le premier ministre n'est pas candidat. Le premier ministre est du parti du PAIGC. Celui qui est candidat, c'est Domingo Simões Pereira, qui est le président du PAIGC. Le Premier ministre a bien réagi aujourd'hui pour dire qu'il maintient le calendrier de la CEDEAO, c'est-à-dire début de la campagne ce samedi 2 novembre et le vote est prévu pour le 24. D'ailleurs, c'est ça le calendrier de la CEDEAO et du groupe que l'on appelle les P5, c'est-à-dire la CEDEAO, la CEE, l'Union africaine, etc. etc. Donc, on maintient que le calendrier aura bel et bien lieu et qu'il y aura élection.
Le président, il est candidat en indépendant. Il n'est plus candidat du PAIGC.
Non, il n'est plus candidat du PAIGC. C'est un candidat indépendant. Le candidat du PAIGC s'appelle Domingo Simões Pereira.
Mais comment se fait-il que la Guinée-Bissau, depuis plus de 4 ans, n'arrive pas à avoir un gouvernement stable?
Parce que, tout simplement, l'actuel président ne veut pas respecter les textes de la Constitution. La Constitution est au-dessus de tout le monde. La Constitution dit que le parti qui a gagné les élections législatives doit désigner son candidat. Ils ont désigné leur candidat, en l'occurrence Domingo Simões Pereira. Le président n'en veut pas. Ah, la CEDEAO a coupé la poire en deux pour dire, bon, ok, vous n'en voulez pas. Maintenant, on va reconduire Aristide Gomes, Premier ministre. Vous restez à votre poste jusqu'à la fin des prochaines élections. Il ne respecte pas ce que la CEDEAO lui dit et le groupe qu'on appelle le P5.
Mahmoud Cissé, journaliste sénégalais, spécialiste de la Guinée-Bissau.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, les groupes armés continuent de mener des attaques meurtrières dans le centre du Mali et le nord du Burkina Faso. Ces terroristes opèrent à travers la région du Sahel qui échappe de plus en plus aux armées nationales et autres missions présentes. Qu'est-ce qui explique la détérioration de la situation sécuritaire dans le Sahel? La décision de l'UEMOA d'envoyer des troupes dans les pays les plus touchés aidera-t-elle à renverser les rapports de force sur le terrain? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Des milliers de personnes en République centrafricaine ont perdu leur maison à la suite de pluies prolongées et abondantes. Ces inondations inédites en 20 ans sont dues à la conjonction de pluies exceptionnelles et incessantes depuis une semaine et la crue de Lubangui et ses affluents. Au moins 28 000 personnes se retrouvent sans abri à Bangui et dans d'autres villes du pays. Plus de précisions avec Blanche Sanou.
Des maisons détruites, des sans-abri, c'est le constat fait par Pasek Ibarra, l'un des coordinateurs des camps de fortune mis en place pour les habitants déplacés par les inondations à Bangui.
Approximativement entre les deux sites, on est à presque 1200 qui sont là. Vous voyez, on est sous la pluie, il n'y a pas de bâche. Et encore beaucoup plus de risques parce que les maisons qui ne sont pas écoulées sont en train d'être écoulées aussi. Donc le risque continue et il pleut.
Des préoccupations partagées par les personnes déplacées comme Faf Pilingbi et Roch Lionel qui attendent le soutien du gouvernement.
C'est vraiment triste, c'est catastrophique. L'eau a inondé nos maisons et détruit toutes nos affaires. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école et notre situation alimentaire est difficile. Il fait froid et nous n'avons pas d'abri, pas même de plastique pour nous protéger. Le gouvernement doit prendre soin de nous.
Nous avons vraiment besoin de l'aide. Il y a des maisons qui sont détruites. Les familles, les parents sont hors de leur maison. C'est un peu difficile lorsque tu quittes chez toi, lorsque tu n'as pas prévu, aller dormir ailleurs. Ce que tu as construit pendant des années, au bout de deux jours, ça s'écroule. C'est pas facile. C'est avec beaucoup de chagrin que j'exprime ces mots-là.
Le premier ministre Firmin Grébada a déclaré que les inondations étaient une catastrophe nationale et il a appelé à une aide nationale et internationale.
Les premières évaluations nous donnent un chiffre de 1500 ménages pour 8000 personnes affectées rien que pour la ville de Bangui et plus de 4000 ménages pour plus de 20 000 personnes affectées pour les villes de province. Compte tenu de l'ampleur du sinistre et du contexte particulièrement difficile que connaît le pays, le gouvernement, par ma voix, sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, déclare le pays en situation de catastrophe et lance un appel à solidarité nationale et internationale.
La République centrafricaine est au sommet d'un indice de vulnérabilité au changement climatique et figure parmi les pays les plus menacés par les inondations. Ce même indice publié en 2018 par les Nations Unies montre également une croissance démographique rapide et des infrastructures médiocres exposant de nombreuses grandes villes africaines à un risque extrême de menace posée par le changement climatique. La RDC et le Libéria sont d'autres pays exposés à de telles menaces.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Allons à présent en Afrique du Sud, l'un des pays les plus dangereux au monde avec des statistiques récentes faisant état de 2 millions de crimes répertoriés pour 2019. Pour lutter contre la criminalité, l'application Namola offre une assistance d'urgence gratuite 24 heures sur 24. Les utilisateurs disposant d'une couverture réseau peuvent en effet télécharger et gratuitement cette application sur leur smartphone et sur simple pression d'un bouton demander de l'aide où qu'il se trouve. Arzuma Compaoré nous en dit plus.
À l'aide d'une simple pression sur un des boutons de l'application, les utilisateurs en danger sont immédiatement rappelés par les opérateurs de Namola pour vérifier les détails de la demande, puis s'ensuit l'envoi d'une aide d'urgence. L'application est liée à divers services d'urgence tels que le personnel de sécurité privée, les services d'ambulance, les services d'incendie et la police.
Pete Matayi est le PDG de Namola.
Historiquement, obtenir une réponse d'urgence en Afrique du Sud a toujours été un défi pour différentes raisons. Avec Namola, nous nous sommes dit comment créer quelque chose de très simple pour que tous les Sud-Africains puissent appuyer sur un seul bouton et obtenir une réponse immédiate aussi rapidement que possible. Et c'est là que nous avons eu l'idée de l'application. La criminalité est évidemment un facteur majeur et nous traitons plus de 400 incidents par jour et c'est la raison pour laquelle nous existons.
Les Edi Malangu, qui a été braqué à l'arme il y a quelques mois dans sa maison, a déclaré que l'application Namola était la raison pour laquelle elle n'avait pas été blessée.
J'ai appuyé sur le bouton d'urgence de Namola, ils ont répondu et ont appelé très rapidement. Même si j'ai dû plutôt chuchoter, au moins ils ont compris ce qui se passait et nous avons donc continué à envoyer des SMS. Puis Namola envoyer de l'aide. Je pense qu'au moins 2 voitures de police sont venues nous aider et tout a été réglé. L'agresseur a été mis derrière les barreaux.
Malangu, qui a téléchargé l'application au plus fort des violences sexistes contre les femmes, a également déclaré qu'elle était impressionnée par le fait que les opérateurs de Namola aient réussi à l'aider même si elle ne pouvait pas expliquer verbalement le danger.
La dernière fois que j'ai dû appeler la police, ça a vraiment pris longtemps et je ne comprenais pas pourquoi. C'est alors que je me suis dit qu'en téléchargeant l'application Namola, ça serait différent. Je leur ai demandé ce qui se passait dans le cas où je ne pouvais pas parler. Ils m'ont dit de juste répondre et qu'ils essaieraient de capter tous les sons en arrière-plan. C'est bien, c'est efficace et maintenant si j'appuie sur le bouton panique, mes amis aussi sauront où je suis ainsi que toutes les autres connaissances de confiance que j'ai choisi.
Namola compte aujourd'hui plus de 350 000 utilisateurs qui peuvent disposer d'un bouton de panique physique, moyennant un forfait mensuel de 79 rands, soit 5,40 $. Selon l'enquête sur les victimes d'actes criminels menée par Statistics SA, plus d'un million de ménages sud-africains ont été victimes de 1,5 million d'infractions criminelles au cours du dernier exercice.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans la ville de Maïdougouri au Nigeria, faire brûler du kadji, un encens populaire, est une tradition chérie par les locaux. Le kadji est fabriqué à partir de recettes transmises de génération en génération. Il est utilisé lors d'importantes cérémonies telles que les mariages, les baptêmes et les décès pour, dit-on, chasser les mauvais esprits. Avec les progrès de la technologie et des médias sociaux, le marché de l'encens se développe de plus en plus. Chika Odoua s'est rendu à Maïdougouri pour constater ce renouveau du kadji. Lionel Gaïma raconte.
Fatima Goni se promène dans le plus grand marché de Maïdougouri à la recherche des produits pour fabriquer de l'encens appelé kadji. Elle achète des huiles parfumées et du bois aromatique.
J'ai commencé à en vendre en petite quantité aux habitants de Maïdougouri.
L'usage de l'encens fait partie de l'identité kanouri. Les locaux s'adonnent à ce rituel depuis au moins un millénaire. Boukar Chabal, de l'association culturelle de Kanouri.
Le kadji est un aspect important de l'existence de Kanouri. Si les gens viennent chez vous et que vous ne faites pas brûler du kadji, ils vont se dire, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Lorsqu'une femme accouche, la première chose que l'on fait après le bain, c'est de ramener du kadji.
Il y a plus de 800 boutiques de kadji à Maïdougouri. Et cet encens convoité se ferait un chemin sur le nouveau marché à travers les réseaux sociaux. Fatima Mustapha vend du kadji sur les réseaux sociaux. Elle explique que cela lui permet de toucher une clientèle plus jeune dans des pays comme le Tchad, le Niger et même la Grande-Bretagne.
J'ai commencé à vendre sur les réseaux sociaux car c'est la seule façon d'avoir accès à beaucoup de personnes. On peut voir les différents produits sur Instagram et lorsque je poste les photos, j'utilise les hashtags pour cibler les gens.
Le kadji est accessible à tous les porte-monnaies. Les prix vont de 50 centimes de dollars à 150 dollars. Mais les professionnels de la santé avertissent qu'une exposition prolongée à la fumée de l'encens peut avoir des effets nocifs. Comme avec toutes les bonnes choses, il faut donc savoir user le kadji avec parcimonie.
Et c'est la fin de cette édition mise à nom de par Joselle Morissin. Justin était à la console. John Lyndon vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Restez à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. diffusée partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.